Que on est dans notre deuxième chiour sur la lettre 26. Et dans cette lettre, on essaie de parler de l'importance de l'étude du Zohar. Donc on avait ramené en préambule la semaine dernière au début du cours ce que le Zohar dit. Le Zohar lui-même, il dit sur l'étude du Zohar. Il dit que ceux qui étudieront la profondeur de la Torah, quand Mashiach arrivera, ils seront protégés de l'épreuve qui est liée à l'arbre de la vie. On avait expliqué en gros c'était quoi, donc on avait développé longuement. On avait dit que en vérité, il y a trois arbres. Il y a l'arbre de la vie, l'arbre de la mort, et l'arbre de la vie et de la mort. L'arbre de la mort, c'est l'avérot. Ça veut dire, par exemple, quand une personne mange du cochon, ça c'est l'avéra, c'est l'avéra. L'arbre de la vie, c'est la Kabbalah, c'est la profondeur de la Torah, comme on expliquera aujourd'hui même. Et l'arbre de la vie et de la mort, c'est quoi? On a expliqué, c'est la Gemara. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la Gemara, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux bien l'utiliser comme tu peux mal l'utiliser. Bien l'utiliser, c'est dire, grâce à ça, je veux mieux servir à Kadosh Baruch Hu, Hazak. Mal l'utiliser, c'est quoi? C'est quand une personne va utiliser le fait qu'il a un peu de connaissances pour s'enorgueillir sur les autres. Donc c'est, malheureusement, c'est un Yetzer Hara qui existe. Et qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Le Zohar a dit. Amen. Le Zohar a dit que ceux qui vont étudier le Zohar, c'est-à-dire ceux qui vont étudier la profondeur de la Torah, à la fin des temps, il y aura une épreuve particulière que Dieu mettra, pas spécialement sur le fait de ne pas garder Torah et Mitzvot, sur le fait que Dieu mettra de l'orgueil dans la tête de ceux qui étudient. Ça sera l'épreuve de la fin des temps. C'est comme ça le Zohar dit. Et le Zohar dit que la seule manière de s'en sortir, c'est ceux qui étudieront les profondeurs de la Torah, comme on va expliquer aujourd'hui ce que c'est. Donc a priori, quand on lit ça, on comprend que aujourd'hui, qu'on s'approche de plus en plus vers la fin des temps, il n'y a pas moyen, si on veut ne pas tomber dans l'épreuve de l'orgueil de la fin des temps, qui arrive justement aux érudits. On est d'accord? On est obligé d'étudier la profondeur de la Torah. Seulement,
c'est quoi, c'est le Zohar?
Alors justement, ça, là, on va devoir développer aujourd'hui, c'est quoi la profondeur de la Torah? Alors, on a dit c'est le Zohar, mais c'est quoi le Zohar?
Le Rabbi dit l'inverse, que ce qu'on a vu, c'est plus ça.
Ah, attends, justement. Ça, c'est ce qu'on a amené le Zohar. Après, on a posé une question. C'est quoi la question qu'on a posée? On a dit, comment on peut dire des choses comme ça? On a dit, comment c'est possible de dire qu'une personne qui étudie la Torah, une personne qui étudie la Gemara, une personne qui étudie la Halakha, comme c'est pas le Zohar, tu es en train de dire que c'est l'arbre de vie et de la mort, c'est-à-dire ça peut mal se tourner. Il dit, mais attends, je comprends pas. Il dit, d'abord, et c'est là qu'on a commencé à entrer dans le vif du sujet. À l'époque de la Gemara, l'étude du Zohar était interdite à 99,9% des gens. On est d'accord? C'était interdit, c'est-à-dire qu'on n'en parlait même pas. Et même dans la Gemara, quand on parle de ceux qui étudiaient, c'est ce qu'on appelle Rashi Prakim, c'est-à-dire c'est juste, on donne l'index, on dit, il y a des gens, on donne juste le nom du sujet. On n'avait pas le droit de l'étudier en public. Même quand on étudiait avec quelqu'un, il fallait d'abord l'enquêter. Il fallait d'abord faire une enquête pour être sûr qu'il a les reins solides. Parce que malheureusement, il y a eu des cas où ça s'est mal terminé. Parce que le Zohar, c'est un peu les secrets du monde. On est d'accord? Donc, c'était quelque chose qu'on n'enseignait pas à n'importe qui. Et pas seulement ça. D'accord? Même Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il a dit que ceux qui étaient autour de lui, qu'on appelait la Chevraya, c'est la semaine prochaine, c'est l'Akba Omer. L'Akba Omer, en fait, donc la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son élite qu'il avait autour de lui, chaque personne de cette élite-là était sélectionnée et devait recevoir l'accord direct de Dieu, qui lui dit, tu peux prendre celui-là. Ça veut dire que parmi les Talmidei Chachamim, il y avait des milliers de Talmidei Chachamim, il y avait que certaines personnes triées sur le volet, qui avaient leur Neshama, qui était adaptée pour étudier le Zohar. Donc la question qui se pose ici, il dit, comment on peut dire...
Voilà.
Bon, en bouteille. Donc la question qu'on se pose, je voudrais qu'on va se concentrer parce qu'aujourd'hui on va avoir pas mal de choses.
C'est Marcel qui va faire les sandwichs
aujourd'hui. Oui, on l'a dit. Ah, bah t'as pas ton portable, vas-y dans l'SMS. Pour comprendre ce que c'est l'arbre de vie, il faut boire de l'eau de vie. Marcel, t'es sûr un peu Marcel ou pas? Ok, bonsoir. Donc la question qu'on essaye de se poser aujourd'hui, c'est finalement, qu'est-ce qu'on pense du Zohar? On a dit qu'à l'époque de la Gemara, l'étude du Zohar, l'étude de la profondeur de la Torah, était interdite. Quand je parle du Zohar, il y a plusieurs parties dans le Zohar. Il y a ce qu'on appelle les codes. C'est quoi les codes? C'est-à-dire que ceux qui savent bien comprendre ça, ils peuvent gérer le monde. Oui, les codes, ce qu'on appelle en hébreu la Kabbalah Ma'asit. c'est-à-dire la Kabbalah pratique. Pratique, comprenez dans le sens technique. D'accord ? Alors, attends, doucement, doucement. D'abord, j'explique qu'est-ce qu'il y a dans le Zohar. Ça, c'est pas écrit explicitement. Ne croyez pas que vous allez ouvrir un livre de Zohar, ça va être écrit devant vous. Mais ceux qui savent étudier ça, ils peuvent faire ce qu'on appelle la Kabbalah ma'asit, ça veut dire la Kabbalah technique. C'est-à-dire qu'avec ça, ils peuvent vous faire parler des ce que vous voulez, etc. Ça, c'est le Zohar. Mais en général, quand nous on parle du Zohar, c'est pas de ça qu'on parle. Quand nous on parle du Zohar en général, on parle ce qu'on appelle de la Kabbalah marchavtit, c'est-à-dire de la Kabbalah qui est liée à la réflexion. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Seulement le problème c'est quoi? C'est comme je vous expliquais, à l'époque de la Gemara, c'était interdit pour les gens du public d'étudier ça. Interdit. Même les Talmidei Chachamim, même les érudits, on acceptait dans le cercle restreint de ceux qui étudiaient le Zohar, seulement ceux qui avaient déjà passé en revue toute la Gemara, et seulement, donc déjà pour entrer dans la liste d'admission, il fallait déjà avoir étudié toute la Torah. Et là, celui-là on dit bon, c'est un candidat potentiel. Et après, mais c'est impossible, d'accord. Et après, on devait le questionner, d'accord, on prenait les meilleurs. C'est-à-dire qu'en général, comme j'ai dit la dernière fois, je répète quelques mots parce qu'il y a plusieurs qui n'étaient pas la semaine dernière. En général, par génération, il y avait entre 30 et 40 personnes qui étaient versées dans le Zohar. Pas plus que dans le monde.
Dans le monde.
Environ.
Sauf les secrets. Sauf les lamettes vagues. Non,
voilà ce que je dis. Non, je limite dans cela. 30 à 40, pas plus.
Il reste 4 alors.
D'accord.
Plus.
Ah oui.
C'est quoi ça?
Il n'y avait rien. Et c'est dans chaque génération, il y a 36 tadikim cachés.
Ouais.
C'est ça. Pas spécialement, j'ai pas dit ça.
Génération, c'est combien d'années de
maintenant? Ça dépend. La génération, une génération, ça suit le chef de la génération.
On est combien là? Une quinzaine, il n'y en a plus que 25 à découvrir.
Donc, un gros risque. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je voudrais, parce que j'ai vu que la semaine dernière, on s'est arrêté un petit peu, c'était pas très clair. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Comment, d'une étude qui était l'apanage de certaines personnes, comment c'est arrivé aujourd'hui que tout le monde apprend la profondeur de la Torah? La Chassidoute, le Zohar, même le Moussard, Maharal de Prague, comment c'est arrivé? Comment on en est arrivé là? Alors, on a expliqué la semaine dernière, juste deux secondes s'il vous plaît, parce que là je fais un résumé. On a expliqué la semaine dernière qu'en vérité, celui qui a fait le grand changement, c'est le Harizal. Le Harizal, il y a à peu près 450 ans d'aujourd'hui, le Harizal a fait un grand changement. C'est lui qui a dit, ça y est, on s'approche de la fin des temps. Et comme le Harizal est conscient de ce qu'on a expliqué au début du cours, que plus on va s'approcher de la fin des temps, et plus on aura besoin de
du Zohar,
et sans ça on ne tiendra pas. Donc le Harizal a dit, ce qui était interdit avant est permis. Ça veut dire, avant c'était interdit d'enseigner le Zohar, maintenant c'est permis. Il a dit, non seulement c'est permis, il a dit, mitzvah legalot zot achorma.
C'est un devoir.
Donc ça a fait un tollé, d'accord? Le Harizal n'a pas vraiment eu le temps de s'expliquer parce que, comme on a dit la semaine dernière, il est niftar à 36 ans et il a été connu du public seulement à 34 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, il a fait qu'enseigner la Torah. Et je veux dire, quand il a dit il faut enseigner la Kabbalah à tout le monde, ça a fait un tollé, mais il a même pas eu le temps de gérer ce scandale, entre guillemets, parce qu'à 36 ans, il est parti.
Ouais.
Il est parti.
Il a mis une panique et il s'est barré.
Et donc après, du coup, dans l'âme Israël, c'était la pagaille. Dans la pagaille, dans le sens où on savait pas comment réagir. Parce que t'as beaucoup de rabbinim qui disaient, mais attends, pas possible, on peut pas laisser ça comme ça, on peut pas dévoiler les secrets de la Torah comme ça. En Israël, c'est passé. Oui. Et après, progressivement, d'accord, donc c'est resté un peu en stand-by comme ça. C'est resté un peu en stand-by. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui pensaient oui, ceux qui pensaient non. Concrètement, la majorité des rabbinim, jusqu'à l'époque du Baal Shem Tov, disaient, bon, puisqu'il y a un doute, on préfère se taire. Donc ils se disaient. Donc ça restait, il y avait un peu plus de personnes qui étudiaient le Zohar, mais ça restait toujours seulement les grands Talmidei Chachamim, les grands érudits. C'est-à-dire, on avait pris un peu plus de marche que par rapport avant le Harizal, mais on était encore loin du compte. Et là est venu le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, d'accord, qui une fois...
Ça c'est dans la communauté ashkénaze.
Ah, attendez, laissez-moi finir. Là, je parle de communauté ashkénaze, mais ça s'est passé en parallèle aussi dans toutes les communautés. Et là est venu le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, lui aussi, il a développé la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? La chassidoute, en vérité, c'est une vulgarisation, entre guillemets, du Zohar. C'est-à-dire, ce qu'on étudie dans le Tania, par exemple, c'est en vérité des notions de Zohar. Parce que j'ai vu la semaine plusieurs qui m'ont dit, c'est quoi le Zohar? D'accord? Le Zohar, on l'étudiera pas directement parce que c'est compliqué. Mais ce qu'on étudie dans le cours du lundi soir, c'est une vulgarisation de notions du Zohar. D'accord? C'est-à-dire, on essaye de les amener à notre portée. Et là, le Baal Shem Tov est venu. Le Baal Shem Tov, écoutez bien, c'est très important ce qu'on va dire. Le Baal Shem Tov, il est venu. Lui, il a fait la chassidoute, c'est-à-dire il a essayé de vulgariser tout ça dans le sens de mettre à la portée des gens. Seulement, le Baal Shem Tov, les gens, quand ils s'imaginent le Baal Shem Tov, ils s'imaginent comme celui qui s'occupait des gens du peuple. Sachez que c'est une erreur. En vérité, le Baal Shem Tov, au début, il n'était pas comme ça. Alors, ce qui est curieux, c'est que le Baal Shem Tov, il a reçu, jusqu'à l'âge de 36 ans, il n'avait pas le droit de dévoiler qui il était. Et à l'âge de 36 ans, c'est-à-dire que dès qu'il voulait dévoiler qui il était, Lucien lui disait, attention, l'heure n'est pas arrivée. Jusqu'à 36 ans. Or, rappelez-vous que je vous dis, qui est Niftar à 36 ans? Il n'y a pas de hasard dans le monde. Donc, jusqu'à l'âge de 36 ans, inconnu du public. D'accord? Ah oui, il était inconnu du public, inconnu. Il avait interdiction de faire savoir qui il était. À tel point, pour vous montrer à tel point. Il s'est marié, la seule personne qui savait qui il était, c'était sa femme. Et on raconte que quand il s'est marié, sa femme, elle savait qui était son mari. Mais son beau-frère, qui était un grand Talmid Chacham, c'était le rave de la ville de Brody, d'accord? Il se moquait toujours du Baal Shem Tov. Il se moquait, il dit, tu t'es marié avec un ignorant, parce que le Baal Shem Tov, il a joué ignorant, tu vois. Et sa femme, elle mourait d'envie de dire à son frère, de lui dire, mais mon mari...
C'était l'idiot du village.
Et lui, il jouait l'idiot du village. Et jusqu'à l'âge de 36 ans. Après, bien sûr, bon, une fois qu'à 36 ans, il a reçu la permission de se dévoiler. Et là, bien sûr, le beau-frère a tout de suite le coup de foudre. Et écoutez bien la suite de l'histoire. C'est que le Baal Shem Tov, une fois, quelques années plus tard, donc là, le Baal Shem Tov s'occupait toujours seulement des gens, des sadikim, c'est-à-dire des gens qui étaient d'un niveau pour comprendre ce qu'ils disaient. Et une fois, le Baal Shem Tov a fait une aliyat à Neshama, c'est-à-dire il est monté, sa Neshama, c'est quelque chose que les sadikim font, sa Neshama est monté dans la sphère du Mashiach. Et il lui a posé une question, trois mots, d'accord? Il a dit, Ematai Kaati Mar, quand Maître viendra? Baal Shem Tov est monté chez Mashiach, il a dit, quand Maître viendra? Qu'est-ce qu'a répondu Mashiach? Mashiach a répondu, il a dit, quand tes sources seront répandues à l'extérieur.
Débrouille-toi avec ça.
Maître, c'est une manière de respect, une marque de respect. Comme dans la Gemara. Quand Mashiach viendra, il lui dit, quand tu viendras? Parce que c'est la Neshama de Mashiach qui peut s'adapter dans n'importe quel corps. Il lui a dit, quand tu viendras? Il lui a dit, quand tes sources, ça veut dire tes sources, c'est quoi? C'est les sources de la Chassidut. Quand tes sources seront répandues à l'extérieur. Alors là, on raconte dans la tradition, on raconte qu'à ce moment-là, dès que le Baal Shem Tov a entendu ça, il a pleuré. Il s'est mis à pleurer. D'accord ? Maintenant, après, il y a une grande machloquette après chez ceux qui ont suivi le Baal Shem Tov pour essayer de comprendre pourquoi il a pleuré. Ça, il n'a pas dit pourquoi il a pleuré. Alors, il y avait le petit-fils du Baal Shem Tov, Rabbi Barour de Mezibosh, qui lui disait, mon grand-père a pleuré parce que ça lui a fait de la peine. Comment on peut prendre des choses tellement profondes comme la chassidut et les mettre comme ça à la portée de tout le monde, les jeter à la portée de tout le monde? C'est pour ça qu'il a pleuré. Comment on peut prendre un trésor tellement grand et le jeter à la portée de tout le monde? Ça, c'est comme ça que Rabbi Barour a compris. Il y a d'autres qui ont compris différemment. Ils ont dit que le Baal Shem Tov va pleurer. Parce que quand on lui a dit, ma chère arrivera lorsque tes sources seront répandues, il a compris qu'il faudra très longtemps pour arriver là, et donc il s'est mis à pleurer. Alors, quoi qu'il en soit, je vous raconte la suite de l'histoire, des choses qu'on n'a jamais racontées. Et donc, la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que des dizaines d'années plus tard, il y avait une grande marloquette entre Rabbi Barour de Mezibosh, celui qu'on a dit le petit-fils donc du Baal Shem Tov, et l'Admor Hazaken, l'auteur du Tanya. Quel était le sujet de leur discorde? Une discorde de Shem Shamaï, bien sûr, pour Dieu. La discorde, c'est que l'Admor Hazaken pensait qu'il fallait diffuser la chassidut à un maximum de personnes. Et Rabbi Barour n'acceptait pas ça. Il dit non, il faut garder la chassidut seulement aux personnes qui sont initiées. Alors, les chassidim expliquent, mais finalement, on a vu que le Baal Shem Tov, on lui a dit qu'il faut le faire. Alors, les chassidim expliquent qu'en vérité, Rabbi Barour de Mezibosh, il avait de la peine pour les larmes de son grand-père. Comme il a vu que son grand-père a pleuré pour ça, comment on peut prendre un trésor tellement grand comme la chassidoute et le jeter? Donc, il a eu de la peine pour l'âme de son grand-père. Mais l'Admor Hazaken, une fois, il a dit, moi j'ai de la peine pour personne. Tant que ma chère n'est pas là, on avance. Je vais vous raconter encore une autre histoire qu'on raconte chez Chassidim pour illustrer ce que je veux dire. C'est une histoire très importante pour comprendre la suite. Chez Chassidim, on raconte l'histoire, une fameuse histoire qui est très connue, que ceux qui viennent à la soirée de Yutet Kislev, certainement, ils ont dû l'entendre déjà plusieurs fois. C'est l'histoire de la pierre précieuse. On raconte qu'une fois, écoutez cette histoire. Une fois, le Maguide de Meserich, donc je vous rappelle la lignée comme ça, hein, vous venez à cours le Tania, il faut être connaisseur maintenant dans la lignée. Alors, on a le Baal Shem Tov. Qui était l'élève principal du Baal Shem Tov? C'était le Maguide de la ville de Meserich. Qui était l'élève principal du Maguide de Meserich? C'était Rabbi Shneur Zalman, donc l'Admor Hazaken, l'auteur du Tania. Alors écoutez cette histoire. Lorsque l'Admor Hazaken était encore jeune, donc chez son maître, le Maguide de Meserich, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, il y a eu une grande accusation dans le ciel. Pourquoi? Vous écoutez l'histoire?
Oui.
Tout le monde est là? Écoutez l'histoire. Allez, les chaïm à tous. Approche-toi, Michael. Tu m'angoisses comme ça.
Ça joue timide.
David, je peux bientôt une troisième table. Hein.
C'est quand tes sources répondront, regarde.
Alors attendez, écoute.
La semaine prochaine, on va doubler le nombre de sandwichs, ne vous inquiétez pas. On va s'adapter.
Alors écoutez l'histoire. Ça, dans cette lettre-là, on va faire une grande partie à l'oral parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Donc, on raconte qu'une fois, il y a eu une grande accusation dans le ciel. Magui de Meserich est venu, il a raconté à ses élèves, donc parmi lesquels il y avait l'admour Azakel, auteur du Tania. Il leur a raconté, il leur a dit, sachez que dans le ciel, actuellement, il y a une grande accusation. Quelle est la grande accusation qu'il y a? Il leur a dit, écoutez, il y a une histoire qui vient de se passer ces derniers jours. Il y a eu une personne qui a écrit sur un papier des textes de Chassidut. Et malheureusement, il les a laissés un peu traîner. Il y a eu du vent qui est venu. Il y a un papier qui s'est envolé et qu'il a perdu. Et ce papier, il a volé dans les airs, il s'est baladé avec les feuilles. Il a fait comme ça plusieurs kilomètres jusqu'à ce que quelqu'un l'a ramassé. Et dans le ciel, quand on a vu ça, les anges ont porté une accusation terrible. Ils ont dit, de quel droit on laisse traîner des choses tellement kadosh à tel point que ça traîne avec les feuilles des arbres? Comment on peut accepter une chose comme ça? Et donc ça a fait une accusation terrible sur la chassidoute. Et donc le Magui de Meserich a dit à ses élèves, il leur a dit, si on n'enlève pas cette accusation, dans le ciel on a décidé que je vais devoir mourir, parce que je suis à votre tête. Oui, dans le ciel, on a dit, comment on peut accepter que des paroles de Torah, surtout le Zohar, la profondeur de la Torah, soient jetées comme ça avec des feuilles? On l'a pas cherché, mais c'est comme ça que t'es arrivé. Bah oui, quand tu vulgarises, ben, ça peut des choses comme ça arriver. Alors, l'Admour Azaken a dit, il s'est tourné vers le Magui de Meserich, il a dit, si je peux me permettre, je pense que je peux enlever cette accusation. Ah bon? Il dit, je vais répondre à cette accusation avec un exemple. Il dit, écoutez, il y a une histoire qui s'est passée comme ça. Une fois, dans une ville, il y avait un roi. Et ce roi, il avait un fils qu'il avait attendu très longtemps pour l'avoir, fils unique. Et une fois, ce fils tombe malade. Ah, bien sûr, le roi, il amène les plus grands docteurs. Il amène les plus grands docteurs, il n'y a pas de prix pour guérir son fils. On amène les meilleurs docteurs, et les meilleurs docteurs disent, désolé, il n'y a rien à faire, il va mourir. Il n'y a rien à faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le roi apprend, qu'il y a un docteur qui a une certaine méthode particulière, non conventionnelle, et qu'il faudrait peut-être essayer. Ah bien sûr, il paye tout ce qu'il faut pour l'amener. Ce docteur arrive, il auscule bien le fils, il dit, écoutez, il y a une seule solution qui va peut-être marcher. C'est quoi cette solution? Il faut prendre le joyau qui est sur votre couronne. C'est un joyau unique dans le monde, que personne ne connaissait, personne n'avait. Il faut le moudre et essayer de faire boire de cette potion à votre fils. S'il va réussir à boire, parce qu'il était déjà bien avancé dans la maladie, il peut guérir peut-être. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? D'abord, c'est pas sûr que la potion va guérir. Même si la potion, elle peut guérir, c'est pas sûr qu'on va réussir à faire boire à l'enfant. Et même si tu vas réussir à faire boire à l'enfant, pour une goutte qui va rentrer, tu vas mettre 100 gouttes dehors. Parce que, tu sais, c'est comme un enfant à qui tu veux donner un médicament. Qu'est-ce qu'a fait le roi d'après vous? C'est le joyau, c'est son joyau, le joyau de la couronne.
Son fils, il y va.
Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Bien sûr, le roi, il a accepté. Eh bien, l'Admour Azaken, il a dit, il se tourne vers le Magui de Meserich, il dit, Rabbi, si vous permettez, c'est la même chose. Il dit, c'est quoi le Zohar? C'est quoi la Kabbalah? C'est quoi la Chassidut? C'est le joyau de la couronne d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la couronne d'Akadosh Baruch Hu? C'est la Torah. D'accord? La Torah, c'est la couronne de Dieu. Dans la couronne de Dieu, il y a un joyau. Le joyau, c'est ce qui brille. C'est quoi ce qui brille? C'est la Chassidut. Maintenant, le problème, c'est que le Fils de Dieu, il est malade. C'est nous. Plus on avance dans l'exil, et plus on est malade. Et Dieu, il est prêt à tout faire pour nous guérir. Même si tu vas me dire qu'il y aura 1000 gouttes qui vont sortir dehors, ne serait-ce que pour prendre le risque que le fils, il va prendre une goutte et que peut-être ça va le guérir, le roi, il prend tous les risques. Le Magui de Meserich, il s'est comme ça enfermé dans ses pensées. Il est revenu quelques instants plus tard vers ses élèves. On parle de gens ici qui communiquaient avec le ciel comme nous, on parle avec notre femme. Hein. Et il a dit, l'accusation a été levée. Mais il faut faire attention. Du style, bon, on a réussi une fois, on ne sait pas si on réussira d'autres fois. Ce que je vais montrer par ici, c'est quoi? C'est qu'on montre, on montre avec ça comment progressivement plus les générations ont avancé, et plus ce qui était interdit à l'époque, non seulement que c'est devenu permis, mais c'est carrément devenu une mitzvah, carrément une mitzvah de pikuach nefesh. Pikuach nefesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut sauver des vies. Quand on doit sauver une vie, eh ben, on dit que Shabbat, on a le droit de prendre, de faire la shrita d'un animal, même s'il n'est pas caché, enfin, s'il n'est pas caché, il n'a pas besoin de faire la shrita. Peut-être si le docteur, il dit, peut-être si le malade mangera une cuillère d'une soupe à base de viande, peut-être qu'il guérira. Et ben on prend une vache entière, on lui fait la shrita et on fait tout ce qu'il faut pour peut-être qu'il va guérir. Et ben c'est comme ça. Là, c'est le joyau du roi. Pourquoi? Parce que malheureusement des fois il y a que ça et que ça qui peut guérir. Ok. Maintenant qu'on a expliqué ça à l'oral, on a bien fait une belle introduction Baruch Hashem. Maintenant on va rentrer dans les mots. Alors.
Il faut sauver des vies.
Ah, il faut sauver des vies.
Mais il est où?
Veiné. Alors, on reprend. On s'est arrêté la semaine dernière.
J'ai dit, il arrête d'abord.
Très bien. Ah oui, c'est très important ça. On va passer à la page Kouf Mem Gimel. On s'est arrêté ici. Page Kouf Mem Gimel. On va prendre à côté du Hé, ceux qui ont le Hé, Véod. Vous avez?
Véod.
Tiens.
Et encore. Adraba. Encore plus.
Je suis le Pénéon?
Véod.
Alors, en fait, on va prendre juste avant, à la fin de la parenthèse. Gam Amrou Rabotenu. Gam Amrou, vous avez juste avant? Gam Amrou Rabotenu.
Oh, il faut remonter.
Voilà, on remonte.
Donc on s'est arrêté
la
ici.
Parenthèse.
Donc maintenant, ce qu'on essaye de comprendre, le but du cours d'aujourd'hui maintenant, c'est d'essayer de comprendre entre quelle est la place du Zohar et quelle est la place de la Halakha. On a expliqué la semaine dernière que les gens qui sont dans le monde du Zohar n'arrivent pas à supporter les gens du monde de la Halakha et les gens du monde de la Halakha n'arrivent pas à supporter le monde du Zohar. J'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui sont dans le monde de la Halakha, dans le monde de la Gemara en général, c'est des gens qui sont cartésiens, c'est des gens qui sont carrés. C'est-à-dire que c'est des gens qui réfléchissent de manière mathématique. C'est quoi la halakha? Ben c'est A plus A est égal à B, enfin A plus B est égal à C, c'est cartésien, c'est carré. Alors que dans le monde du Zohar, c'est beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus profond, on rentre beaucoup plus dans la profondeur des choses. Ce qu'on voit aujourd'hui, en général, dans la réalité des choses, c'est que c'est deux natures complètement différentes. Il y a des gens qui ont une nature cartésienne, qui ont une nature carrée. C'est-à-dire, tu lui dis, viens à un cours de Gemara, il kiffe. Viens à un cours de halakha, il kiffe. Dès que tu commences à lui dire, viens à un cours de Tanya, on va rentrer un peu dans la profondeur des choses, il dit, écoute. Je sais pas que c'est des bêtises que tu racontes, mais c'est pas ma cam. C'est pas mon truc. D'un autre côté, t'as des gens, c'est exactement le contraire. T'as des gens, dès qu'on rentre dans la profondeur des choses, ils adorent. Dès que tu commences à rentrer dans un cours de halakha, les détails, si les fils, ils disent, bon, ça, j'accroche pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est deux mondes qui sont complètement contradictoires. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ma chère va arriver? Alors, c'est-à-dire là maintenant, on a en parallèle deux études qui sont complémentaires. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ma chère va arriver? Est-ce que quand ma chère va arriver, on continuera à étudier tous ces petits détails de halakha? Ce qui est permis, ce qui est interdit. D'abord, est-ce qu'il y aura des interdits quand ma chère arrivera? C'est quoi un permis, c'est quoi un interdit? Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, j'ai pas dit ça.
Sauf que ce sera tellement évident.
J'ai dit que le cochon sera permis. J'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'interdit. Est-ce que dans un monde idéal, alors c'est ça la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que dans un monde idéal, il n'y a pas d'interdit? Non, je parle, quand ma chère arrive maintenant, est-ce que dans un monde idéal, il y a l'interdit ou il n'y a pas l'interdit?
Ma chère arrive, il y aura l'interdit, bien sûr.
Alors comment on fait? Alors qu'est-ce qu'on va dire ici? Elles seront? On va voir.
Mais tu les as déjà? Aujourd'hui, mais on les a arrive, sauf qu'ils seront plus explicitifs, mais ils sont déjà.
Quand j'ai appris à manger cachère, je faisais avec du veau.
Il n'y a que le bien qui dit.
Mais ça pas le bien.
On a les le bien. Est-ce qu'il y a le mal ou il n'y a pas le mal? On va développer, vous inquiétez pas, on va développer tout ça. Alors on y va. Donc je suis à la fin de la parenthèse, aux deux tiers de la page. C'est bon, tout le monde est là? Allez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que jusqu'ici tout est clair? Non, franchement, n'hésitez pas. C'est une lettre qui n'est pas facile et c'est une lettre qui est fondamentale. Donc, si vous comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter à poser des questions. Donc, je peux vous dire que quand on a pris ça à la Yeshiva, le Rav, on l'a pas laissé tranquille. Donc, n'hésitez pas, surtout sur cette lettre, n'hésitez pas à poser des questions. Hein? Non, parce que c'est important. C'est des notions qui sont très complexes et très fines. Alors, Gam Amrou Rabotenu Zichronam Livracha. Nos maîtres ont dit, Miyom Shecharav Bet Amigdash, que depuis le jour où le Bet Amigdash a été détruit, En lo le'akadosh baruch hu, et la dalet amach al halakha bilvad. Que depuis que le Bet Amigdash a été détruit, où c'est que Dieu se retrouve, entre guillemets, Dieu se retrouve dans la halakha. Donc, en d'autres termes, ce qu'on veut expliquer ici, c'est comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, d'accord, il n'y a que le Zohar, et que le Zohar, on met tout de côté. Attends, la halakha, c'est plus important, a priori. Là, écoutez bien. Et là, on va parler de Mashiach. Ve'od yesh le'afli, Afle vafle. Une question qui est extraordinaire est la question de Mashiach. Ech efshar shelimot à Mashiach. Comment on peut dire que quand Mashiach va arriver, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit, il y a les trois arbres, il faut bien se rappeler des trois arbres. Il y a l'arbre de vie. La vie, l'arbre de la mort et l'arbre du bien et du mal. Donc la vie et la mort. Donc on va resituer. L'arbre du mal, c'est quoi? C'est les Averot. L'arbre du bien, c'est quoi? C'est, on a dit, c'est la profondeur de la Torah. Et c'est quoi l'arbre du bien et du mal? Qu'est-ce qu'on expliquait? C'est l'étude de la halakha dans laquelle tu apprends ce qui est bon et ce qui est pas bon. Donc c'est ce qui te permet de déterminer ce qui est bon et ce qui est pas bon. Alors il dit, attends deux secondes. Quand ma chère va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est possible de dire que quand ma chère va arriver, l'oïtstachou, l'éda, il chot, il sauve et éter? On n'aura plus besoin de connaître les lois de ce qui est interdit, ce qui est permis. Vetum av et tahara. Ce qui est impur et ce qui est pur. Qui est chichreto à korbanot? Comment on fera la shrita d'un korban? Par exemple, on va faire la shrita d'un korban. Quand ma chère va venir, on va faire la shrita d'un korban. Quand tu fais une shrita, ça peut bien se passer, comme ça peut mal se passer. Donc ça veut dire, ce qu'il veut expliquer ici, c'est que la notion de dire qu'une chose est permise ou interdite, c'est pas forcément lié à du mal. Est-ce que vous me suivez? Très profond la question qu'il pose ici. Il dit, nous quand on s'imagine interdit, tout ça, je me dis, ah, interdit c'est du mal.
Il y a le bon et le pas bon.
D'accord? Il te dit, c'est pas forcément lié à du mal. Par exemple, ça peut être une shrita que tu as ratée. Donc, du coup, puisque tu as raté la shrita, est-ce que l'animal est cachère? Non, il est pas cachère, mais est-ce que ça veut dire que l'animal est impur, qu'il représente les forces du mal? Non, on a raté la shrita, c'est tout. Donc, c'est évident que quand ma chère viendra, est-ce qu'on devra continuer à apprendre ça à la chotla? Bien sûr que oui. Parce qu'il faudra savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, il faudra des règles. On est d'accord? Est-ce que ça répond à votre question?
Oui, mais il y a pas toutes les règles. Hein, les règles, tuer ou manger ce qui est interdit.
Mais
ça fait du mal.
Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on se trompera jamais?
La connaissance, c'est pas inné.
On pense son père.
Ça sera fait pour.
Ah. Attends. Est-ce que ça veut dire qu'on se trompera jamais? On dira jamais une parole déplacée, on fera jamais quelque chose de déplacé. C'est pas écrit, ça. Parce qu'on est humain. Bien sûr qu'on fait des erreurs. Sinon, Dieu nous enlève le libre arbitre.
Non, mais ça, il a pris sur quelque chose, comme je te l'ai dit, sur quelque chose où c'est une erreur. Mais non, c'est pas une erreur. Quelque chose qui est interdit de le manger. Ça, on va le faire.
Ah, j'ai compris.
Là, on sait
il y a des choses où c'est clair. Par exemple, le cochon, c'est interdit. D'accord. On n'en touche pas à ça. Moi, je te parle, il y a des choses dans lesquelles, il y a des halakhot, il y a des nuances. Des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Et que tu peux les faire sans faire exprès. Si tu connais pas la halakhot, tu peux te planter sans faire exprès.
Même en connaissant.
Vous allez dire même en connaissant.
Bah, le lait et la viande, faire cuire en même temps.
Exactement. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a plusieurs qui ont dit, mais ça sera naturel. Même si ça sera naturel, il faut quand même le savoir. Je dois savoir que ça veut dire qu'on continuera toujours à faire des erreurs. Donc, quelle est la question qu'il veut poser ici? Ce qu'il veut montrer, c'est qu'a priori, même quand ma chère arrivera, on continuera à avoir ton histoire de l'arbre de la vie et de la mort. C'est-à-dire de l'arbre du bien et du mal. Parce que le bien et le mal, dès que tu as le libre arbitre, automatiquement, ça veut dire que tu as le bien et le mal. Maintenant, le mal, il faut pas le comprendre dans le sens les forces obscures. Le mal, il faut le comprendre dans le sens quelque chose qui n'est pas cachère. C'est-à-dire quelque chose que tu peux faire quelque chose de bien, quelque chose de pas bien. Et ben, si tu l'as raté, tu recommences. Est-ce que ça veut dire que quand ma chère arrivera, on fera aucune erreur? Est-ce que d'après vous, quand Machar arrivera, on dira aucune parole déplacée, comme vous voyez Machar? C'est sûr que non. Mais c'est quoi le mal?
Non, mais est-ce que c'est le libre arbitre ou c'est pas le libre arbitre?
Mais c'est quoi le mal? D'abord, c'est quoi le mal?
Est-ce qu'on va avoir le libre arbitre après quand Machar arrive à arriver?
Bien sûr. Heureusement.
Alors, il y a le bien et le mal.
Ben voilà.
Donc, il y a l'erreur, pas l'erreur.
Alors.
Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à partir du moment où il a été dévoilé, est-ce que tu crois que t'en
auras plus? Mais ça n'empêche pas que tu restes à l'homme.
Tu sais très bien que là-bas, tu sais qu'il est dans tes pensées, tu sais qu'il est tout. Donc, tu peux pas t'imaginer.
Mais, excuse-moi, c'est quoi le mal pour toi?
Mais aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, il est toujours dans tes pensées.
Oui, je suis d'accord. Et Bagdad, tu continues. Mais là-bas, quand c'est pas pareil, t'es sûr que quand quelqu'un se dévoile à toi et quelqu'un qui n'est pas encore dévoilé, c'est pas la même chose.
D'accord.
C'est quoi
le mal?
C'est le contraire du bien.
Si tu sais vraiment à 100% pourquoi dans ces cas-là tu arrêtes, il va étudier ce qui va te donner la parnassa, tu fais plus rien, c'est sûr qu'il va te nourrir.
Je te donne un exemple. D'accord.
Malgré ça, qu'est-ce que tu veux? Mais là, quand tu es dévoilé,
c'est important, c'est
le contraire de la femelle.
Imagine-toi qu'on me donne un boulot à faire. D'accord? On me donne un boulot à faire. Je peux bien le faire, je peux mal le faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quand je l'ai raté, je représente les forces obscures. Ben, j'ai raté, c'est tout, je recommence.
Par exemple, si je vole quelque chose.
Ah.
Ouais, ben ça c'est d'accord. Un vol.
D'accord, voler, ça c'est pas voler. Ça c'est un interdit. Ça je peux comprendre que quand Machin arrivera...
Même Machin, il vient, on n'a pas le droit de voler.
Non.
Ça c'est merde. Oh mince. T'auras pas besoin de voler, c'est vrai que quand Machin arrivera... Toutes les douceurs du monde seront disponibles par terre comme la poussière.
Et tu pourras toujours prendre un avion.
Donc l'argent n'aura plus de valeur en vérité.
Et tu voudras plus les prendre parce que c'est pas interdit.
Bah oui.
Donc il n'y a pas intérêt à être millionnaire.
Mais est-ce que vous comprenez que la notion.
C'est arrivé ça déjà avec les crises que l'argent n'avait plus de valeur.
C'est... Oui, bien sûr, c'est arrivé.
Il n'y avait pas matière. Hein. C'est quand
1929. peut-être maintenant aussi bientôt.
Il y a une histoire qu'on raconte, je crois que c'est une histoire du. C'est une histoire du Magui de Doubno. Le Magui de Doubno, il raconte une fois, une fois, il raconte que. Une fois, on a envoyé quelqu'un dans une ville, on a appris que dans une île, il y avait une île dans laquelle il y avait des diamants partout. Donc on a envoyé un émissaire là-bas dans cette ville, on lui dit tu vas là-bas, tu vas pour 10 ans et tu reviens dans 10 ans. Mais avec la poche pleine, avec la charge. Donc lui, il est parti, d'accord. Il est parti, ils l'ont laissé là-bas, ils ont dit voilà, on revient te chercher dans 10 ans. Et donc ils l'ont laissé là-bas pendant 10 ans. Et lui, il commence, il voit des diamants partout, comme un fou. Il commence à prendre les diamants, il les met dans la poche, etc. Et après, à un certain moment, il dit bon, maintenant je suis riche, je vais acheter à manger. Alors il va au magasin pour acheter à manger, il sort les diamants. Il dit mais monsieur, ça vaut rien ça ici. Il dit mais qu'est-ce qu'il vaut ici? Il dit ici, il y a une terre particulière. Ici, la terre, d'accord? Parce qu'ils avaient que du sable partout. Ils disent quand celui qui arrive à trouver de la terre, surtout une terre avec laquelle on peut construire, ça vaut tout l'or du monde. Bon, on peut trouver cette terre. Il dit mais écoutez, il faut creuser, il faut chercher, etc. Ok. Alors il commence à faire ça. Et du coup, quelle était la monnaie d'échange là-bas? C'était cette poussière, cette terre-là. Et donc il dit bon, il met les diamants de côté, et après progressivement avec le temps, avec les années qui passent, il oublie qu'il est venu pour chercher des diamants. Il s'habitue à la terre. Donc avec le temps, avec quoi il fait son patrimoine? Avec la terre.
Il vient le chercher 10 ans.
10 ans plus tard, il vient le chercher. Il dit alors, comment ça va? Qu'est-ce qu'il nous a ramené?
Je suis riche.
Il dit regardez, je suis riche. Il leur ramène, il leur a dit des sacs de terre. Il dit mais ça, on en a des millions là-bas. Qu'est-ce qu'il nous ramène ça? Et le Magui de Doubno, il dit c'est la même chose. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il envoie une neshama pour aller chercher en bas faire des mitzvot. Nous, en bas, quand on arrive en bas, quand on est enfant, on sait encore à peu près ce qu'il faut faire. Mais après, avec le temps, on croit que ce qu'il faut chercher, c'est de la poussière. Donc, on cherche la poussière. Après, à la fin, quand on arrive à la fin de la vie, on débarque chez Kadosh Baruch Hu, on lui dit, regarde, j'ai gagné des millions, j'ai des maisons, j'ai des voitures, etc. Je lui dis, mais c'est de la poussière, c'est rien, ça. Et on voulait les diamants. T'arrives en haut, c'est trop tard. Ah, bah oui, quand t'arrives dans le trio, tu dis, monsieur, il n'y a plus de diamants ici maintenant.
C'est pas ça,
c'est un machal un très beau machal du Magui de Doudou, une très belle parabole du Magui de Doudou.
Avec des bougies et du pain.
Moi, dans les sciences c'est la poussière. La poussière, les diamants. Bon, après, c'est l'image qu'on veut retenir. Donc, dans les mots. Il dit, Ech, Efchar, Shelimot, Amashiach, Loïd, Starhu, Leda, Ilchot, Isur, Veter, Vetuma, Vetahara. On est obligé de dire que quand Mashiach arrivera.
Toi, il parle de Isur.
D'accord? On continuera à dire qu'il y a des choses interdites, il y a des choses permises. Il y a des choses qui sont impures, des choses qui sont pures. Pourquoi? Qui Ech, Ishrito, Akorbanot. Comment on fera la shrita des korbanot? Il y aura bien des choses, une manière comment la shrita est cachère, une manière comment la shrita n'est pas cachère. C'est-à-dire qu'on doit avoir des règles. Un monde qui n'a pas des règles, ça devient la jungle. Donc c'est sûr qu'il y aura des règles. Imlo, vegam chulin, même si c'est pas pour la shrita, pour les sacrifices. C'est la shrita pour nous, pour manger. Imlo, yedou ilchot, drusa, vachaluda. Vous savez que quand on fait la shrita, il y a des halachot. Avec le couteau. Par exemple, très important, d'accord? Avec le couteau, il faut s'assurer que l'animal, il va mourir, d'accord? Avec le coup de couteau. Pas d'autre chose. Donc, il y a des halachot pour ça. Des halachot, si le couteau il est lisse, s'il est pas lisse, si on a un safek s'il était lisse, si on a un safek s'il était pas lisse, si on a fait au bon endroit, si on n'a pas fait au bon endroit, il y a des halachot pour ça. Non, celui qui a raté, on n'est pas en train de dire qu'il a fait le mal, mais en tout cas, c'est pas cacher. Donc, c'est des halachot qu'on devra continuer à connaître. C'est évident. Vesh upgimat asakin. Donc, si le couteau est caché, si le couteau est fendu, il n'est pas fendu. Vechi valet ish betivo sheye shochet blishye odrisa. Est-ce que tu penses que quand ma chère revenir, eh ben, on va tous naître comme des robots, qu'on va savoir faire la shrita à 100% sans faute? C'est impossible, on n'est pas des robots. Donc, ça veut dire ce qu'il veut expliquer ici. Il veut te dire, qu'est-ce que tu es en train de me raconter ici? Tu me dis, le mal, c'est la Averot, le top, c'est le Zohar, un monde dans lequel il n'y a que du bien, et au milieu, c'est la Halakha, le bien, le mal, on ne sait pas trop, mais quand ma chère arrivera, il n'y aura plus de ça. Il dit, mais quoi, il n'y aura plus de ça? Tu crois que quand ma chère revenir, on sera des robots? Qu'automatiquement, on se lève, on fait sans faute? Il n'y a plus de goût. C'est évident que c'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Franchement, ça vous intéresserait si on vous dit, ma chère, il va venir, tu te lèves le matin, toute la journée, sans faute, même pas tu risques de faire une faute. Comme un robot. C'est intéressant ou c'est pas intéressant? C'est nul. Non, c'est même pas que t'as plus le libre-arbitre, c'est que t'as plus besoin d'avoir le libre-arbitre. C'est nul.
Le libre-arbitre, il y a plus le problème, je suis comme un animal.
Exactement. T'es programmé.
Quand un animal, c'est un sadique, il fait exactement ce pourquoi il a été créé.
Est-ce que ça nous intéresse d'être comme ça?
Non.
Est-ce que c'est pour ça qu'on attend Mashiach?
Non. C'est bien d'être parfait, là.
D'accord. Ah. Donc, c'est un bon paradoxe qu'il dit. Ça veut dire que, ça, ce qui est curieux, c'est qu'on essaye d'être parfait, mais pourtant, on n'a pas envie qu'on nous impose la perfection.
C'est parce que tu as le libre arbitre, c'est pour ça que tu parles.
Exactement. Ça veut dire que, par exemple, quand Mashiach va venir, Dieu aurait pu nous faire une nature, que celui qui, puisqu'il prend, d'ici l'exemple de la Shrita, il aurait pu te faire une nature que t'es hyper doué, que tout le monde, dès qu'il prend un couteau, bac. D'accord? Mais du coup, il n'y a plus de travail. Du coup, c'est nul. C'est plus intéressant. Parce que l'homme a été créé pour quoi? L'homme a été créé pour se pour se fatiguer. Adam, la maluulade. D'accord? L'homme a été créé pour faire un effort. Si tu fais pas d'effort, tu sers à rien.
Mendy, excuse-moi, s'il y a trop de fautes.
Ah, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Je vais te répondre avec un exemple. Une fois, j'ai expliqué dans le cours, jeudi soir, au cours des jeunes. Je leur ai dit comme ça. Je leur ai dit, quand vous jouez à un jeu, d'accord? Vous savez, les jeux comme ils ont là. C'est quoi le but? Le but, c'est d'arriver au monde suivant. C'est-à-dire, t'as un monde, t'as deux mondes, t'as 10 mondes, d'accord? C'est d'arriver au monde suivant. D'accord? C'est le but, oui. Je dis, maintenant, qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui va chercher sur Internet les codes? Vous savez, il y a des codes, les cheats, ils appellent ça pour vous. D'accord? La solution, quoi, tu vois. Il y a des codes pour voir la solution. Il y a même des fois, tu tapes un code et on te donne des armes, etc. Tu casses tout. D'accord? Attendez, écoutez. Qu'est-ce que tu penses d'une personne comme ça? Elle me dit, c'est nul, c'est pas du jeu, ça.
C'est pas du jeu, mais quand il le fait, après, il est...
Alors, je leur dis, écoute la question que je leur ai posée. Je leur dis, mais c'est quoi ton but quand tu joues? C'est de finir le jeu. Alors, si on te laisse finir le jeu plus facilement, qu'est-ce qu'on a à faire? Ton but, c'est bien de finir le jeu le plus rapidement possible. C'est ça, le score. C'est quoi ton score? Ton score, c'est en combien de temps tu l'as fini? Parce que tout le monde peut finir. Mais en combien de temps tu l'as fini? En combien de fois tu l'as fini? Combien de vies te restaient? Enfin, je sais pas ce qu'ils font dans les jeux d'aujourd'hui. Donc.
C'est toujours ça. Le score.
Quand j'étais petit, il y avait les vies, les scores. D'accord, bon. Donc, c'est ça le but. Donc, si on te donne maintenant une technique pour arriver le plus vite possible à voir avec le plus de points possible, bah, c'est le top. Donc, tu devrais dire oui. Pourquoi tu dis non? Parce que c'est pas fatigue, parce que tu te fatigues pas pour l'avoir. Quand tu achètes un jeu, d'accord, ton but c'est pas d'arriver à la fin, ton but c'est de fatiguer pour arriver à la fin. D'accord? Oui, non. Mon but c'est pas d'arriver à la fin. C'est-à-dire quand tu arrives à la fin, tu dis, j'ai gagné la médaille. Qu'est-ce qu'on a à faire de la médaille? C'est pas que j'ai gagné la médaille, c'est que j'ai travaillé pour gagner la médaille.
Peut-être que le Zohar c'est le code.
Attendez, laissez-moi arriver. Donc, de la même manière, j'ai dit, ça veut dire quoi? Allez, je reprends ta question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on vit dans un monde dans lequel on veut arriver à des résultats, mais on veut travailler pour arriver à ces résultats. Si on n'a pas travaillé pour arriver à ces résultats, on se sent mal à l'aise. La Gemara, pas du tout. Ça n'a pas changé. Pas du tout. La Gemara, elle a un mot très dur sur ça. Elle dit, celui qui n'a pas travaillé pour gagner son pain, même s'il mange très très bien, il a tous les trésors du monde, ça s'appelle le pain de la honte.
Gagner au loto?
Le pain de la honte. Pourquoi le pain de la honte? Parce que il ne sait pas ce que c'est apprécier le travail qu'il a fait. Quand tu as travaillé pour gagner quelque chose, tu apprends à l'apprécier. Donc c'est évident que même quand Machiach arrivera, on continuera à se travailler sur sa personne. C'est évident. Sinon, ça ne sert à rien. Dieu ne nous a pas créés pour être des robots. Parce que dans ce cas-là, il aurait pu créer les malachim, c'est des robots. On est d'accord? Donc c'est évident que même quand Machiach viendra, on aura encore une marge d'erreur. On est d'accord. Donc il y aura toujours l'arbre de vie et l'arbre de... C'est-à-dire il y aura toujours un arbre que tu peux faire le bien comme le mal. Ok. Vous allez comprendre tout ce que je vais en arriver. Ve'od arbe alachot. D'accord.
Il y a des choses, regarde. Nous, on pense bien, la plupart des parents, je travaille dur, mais je ne veux pas que mon fils travaille aussi dur que moi. Alors donc, je fais tout pour qu'il ait pu se faciliter. Non. Pas autant. Pas des conneries. Arrête de dire. On pense bien que pour aller faire un docteur ou pour faire un truc, faut pas dire des bêtises. Tu veux pas qu'il me faire travailler.
On les a pourris, les enfants. Voilà.
Imagine-toi que tu es milliardaire, si Dieu veut, amen.
Amen.
D'accord? Et que ton fils, il arrive à l'âge de 20 ans. Tu nous rappelleras de nous, hein. Voilà. Et que ton fils, il arrive à l'âge de 20 ans. Et dit, papa. T'as vu comment t'es riche, t'es bourré aux as. Laisse tomber, je veux pas aller à l'école, je veux pas aller à la fac, ça sert à rien. De toutes les façons, il y a tout ce qu'il faut à la maison. Qu'est-ce que tu veux lui dire?
Il va le
priver. Il va dire, papa, je vais aller à Saint-Tropez, j'allais m'amuser, je vais... Hein? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Pourquoi non?
Parce qu'il faut qu'il fasse comme des étapes.
Pourquoi non?
Il n'y en a plus d'étapes.
Ça change.
Je vais enlever ça. Pourquoi? Parce qu'il y a internet.
Parce que ce que tu sais, c'est que dans la vie, on apprécie seulement un résultat qu'on a travaillé pour arriver. Ce que tu n'as pas travaillé pour arriver, tu n'apprécies pas. D'accord? C'est ça la différence. Vous savez, il y a quelqu'un qui me parlait Shabbat, quelqu'un qui m'a dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même, il paraît que ça arrive même chez les juifs, à la base c'était que chez les arabes, il y a beaucoup de gens qui veulent pas travailler. Pourquoi? Parce que quand ils travaillent, quand ils font l'équation de, entre s'ils travaillent ou s'ils travaillent pas, ils vont gagner les RMI ou RSA ou je sais pas, ce truc avec toutes ces aides, à 200-300 euros près, c'est pratiquement la même chose. Donc ils disent, je préfère ne pas travailler. D'accord? Plus sans travail, encore mieux, alors encore plus. D'accord? Alors. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ah, parce qu'il y a un travail noir, d'accord. Bon. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je préfère ne pas travailler. Sauf que, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce que la Torah pense de ça? La Torah te dit, c'est très simple, elle te dit, l'argent, peut-être que tu gagneras le même argent, c'est pas un problème. Peut-être même plus, c'est possible, il a raison, c'est peut-être qu'il nous rappelle plus. Mais comme c'est pas un argent que tu as travaillé pour obtenir, ça sera un argent de la honte. C'est-à-dire que tu ne sauras pas ce que ça veut dire profiter de ton argent. Profiter des vacances que tu vas prendre, profiter du pain que tu vas manger, des choses que tu as payées avec ton argent. Quand t'as pas payé quelque chose, quand t'as pas travaillé pour l'avoir, tu sais pas ce que ça veut dire profiter. Donc c'est évident que même quand Mashiach arrivera, et c'est tant mieux pour nous, même quand Mashiach arrivera, on aura toujours besoin de savoir des halakhot, parce que forcément, il y aura une marge d'erreur, obligatoirement. Et c'est cette marge d'erreur qui fera que on essaiera toujours de bien faire les choses. Et tant mieux que c'est comme ça. Donc, ce qu'il veut nous montrer par là, c'est que, qu'est-ce que tu me racontes depuis tout à l'heure? Tu me dis que Mashiach arrivera, le Zohar, il n'y a que le bien. Non! Il dit, chercher un monde dans lequel il n'y a que du bien, ça sert à rien. Est-ce que vous voyez comment il nous a enlevé maintenant un mythe? Dans le cours dernier, on était en train de dire, il y a le mal, il y a le bien, le mal, c'est maintenant, et il y a le bien absolu, et c'est Mashiach. Il dit, mais le bien absolu, ça nous intéresse pas. Si j'ai pas une tentation de faire du mal, si j'ai pas au moins une possibilité de mal le faire, dans ce cas-là, c'est pas intéressant. Je suis comme un robot, ça sert à rien. Je suis pas intéressé d'être comme un robot. Donc on est obligé de dire que même quand Mashiach arrivera, il y aura toujours un peu de bien et de mal. Il va continuer, c'est pas fini.
Ils en avaient marre de la manne dans le désert.
Bien sûr.
Ils voulaient travailler pour la
manne. Oui. Ils en avaient marre. 100%. On leur dictait un pain tous les jours.
Ils étaient au Gan Eden.
Ils voulaient travailler. Ils supportent pas, ils veulent travailler.
Oui, même pas changer de vêtements avec des nouveaux vêtements, la mode et tout. Ils s'usaient pas les vêtements.
Tu sais, David.
J'en ai marre de ce costard.
David, ça fait pas si longtemps qu'on était jeune homme. D'accord? Est-ce que tu te rappelles quand t'étais jeune homme?
D'accord?
Bon, au Hachem. Non, mais quand t'étais jeune homme, je veux dire, quand tu es jeune homme et tu travailles pour gagner un petit peu d'argent, comment tu vas gagner? 100 euros, 200 euros, des babioles. D'accord? Le plaisir que tu as quand tu as gagné tes sous. Ça, je m'en rappelle. Quand t'as gagné. Mais c'est rien, tu vas les claquer.
La première paye.
Bah
oui.
Tu sens quelque chose. D'accord? C'est pas l'argent. Tu sens que j'ai gagné ça avec mon travail. Eh ben, c'est ça. C'est ça ce qu'on fait avec la Torah et les musées. Donc, c'est évident que même quand Mashiach arrivera, on continuera à avoir cette notion de bien et de mal. Donc, le monde, d'accord? Idyllique dans lequel il n'y aura que le bien, c'est évident que ça sert à rien. Écoutez bien ce qu'on va dire ici maintenant. Vegam, ve'od arbe alachot. Vous avez Vegam?
Le 23, rouge, impair.
Non.
Tu rentres avec ça à la maison.
Voilà. Allez, chers amis, deux lignes avant la fin de la page. Vegam, également. D'accord? Touma tamet. Iyou. Et que même, a priori, l'impureté du mort, il y aura. Ah oui, l'impureté du mort, pourquoi? Qui va mourir? Tzrichin, donc Iyu Tzrichim, les Kohanim, ils devront savoir Leïda, qui est-il comme c'est écrit, Anar ben Meashana Yamut. Alors ça, c'est très compliqué à comprendre. Il y a un prophète qui dit que le jeune homme, quand Mashiach reviendra, mourra à l'âge de 100 ans. Est-ce que vous comprenez le problème dans ce verset-là?
Oui.
Non.
Parce qu'à 100 ans, comme à 20 ans, mourra et jeune homme.
Non, c'est marqué qu'on vivra comme à l'époque de Noé.
On dit, le jeune homme mourra à 100 ans. Donc ça veut dire d'abord qu'à 100 ans, on sera jeune homme.
À 100 ans, sera appelé jeune homme.
Mais ça veut dire aussi qu'il y aura la mort.
Ouais.
Et croyez-vous
qu'il y avait la résurrection des morts?
Oui, mais ça veut dire qu'on peut
remourir. Ah
ben, c'est ce qu'il a dit. Donc s'il y a la mort, automatiquement, il y a l'impureté du mort.
Et les Kohen
s'ennuient. Il y a une deuxième étape, après il y a l'autre où on va. C'est-à-dire qu'on recommence?
Ah non, justement.
Il y a une deuxième machine.
D'après Maïmonide, il y a une deuxième étape. Après.
Mais oui.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans la première étape, on va continuer à mourir.
La titre là-haut.
Seulement, comme il n'y aura plus de maladies, c'est déjà un grand bonus, comme il n'y a plus de maladies, donc automatiquement, on vivra beaucoup plus longtemps, et même quand tu seras vieux, tu seras frais comme un jeune. Parce qu'il n'y a pas la maladie qui t'attaque.
En fait, tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a Mashiach numéro 1 et Mashiach numéro 2.
J'ai plus cotisé pour la
sécurité. Deux phases. Là, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mon but ici, exactement. Mon but ici, c'est simplement d'expliquer que quand Mashiach arrivera, on aura toujours le bien et le mal. Ça veut dire, dans le sens, bien sûr que le mal sera moins attirant qu'aujourd'hui, mais il y aura toujours la possibilité de mal faire quelque chose. Il y aura toujours des morts. Donc, s'il y a un mort, automatiquement, l'impureté. D'accord, il y a l'impureté. Donc, il faut connaître la croix de l'impureté. Vegam, tout matiolet et tsachleda. C'est quoi? Imaginons qu'il n'y a pas de mort. Une femme, d'accord, une femme, quand elle va accoucher, elle devient impure.
Oui.
Pour un garçon, elle devient impure. Deux semaines, d'accord? Et pour une fille, un mois. Donc, Donc ça veut dire qu'il y a, il y a la notion d'impureté.
Pour des jumeaux.
Il y a la notion d'impureté de Nida. Oh,
des jumelles. Viens nous angoisser.
70 jours. Hein. Ah
bon. D'accord.
Ah oui, il a eu des jumelles.
Alors celui qui a des quadriplés.
Ça n'a pas traumatisé.
Ouais, je vois ça, c'est pour ça. Ouais.
Ça s'additionne s'il a des triplés ou des quadriplés.
Donc il y a la notion, d'accord. Donc il y a la notion de mort. Il y a la notion d'impureté. D'accord.
Il a dit même si on enlève le mort.
Même si on enlève le mort, il y a la notion d'impureté. Par exemple, une femme qui a ses règles, les femmes continueront à avoir leurs règles, puisque les règles, c'est un signe de bonne santé.
Et on peut même trouver des mottes,
Donc, un Cohen qui va toucher un Cohen, parce que le Cohen pour servir au Beth Amikdash, ou bien un Israël qui doit manger des sacrifices, doit être en état de pureté. Donc, il faut définir qu'est-ce que c'est un homme pur. Un homme pur, bah, s'il a touché une femme qui vient d'accoucher, elle est impure, à ce moment-là. Donc, ça va continuer à exister, les notions de pureté et d'impureté. Donc, forcément, il y aura des règles auxquelles on doit faire attention, auxquelles on ne doit pas faire attention. Im teled isha, donc, qu'est-ce que c'est comme c'est écrit? Hara veyoledet yardav. Alors ça, c'est un autre scoop. C'est écrit que quand ma chère va venir, on pourra, alors ça, c'est un grand scoop, je sais pas comment ça va se passer, je préfère vous dire. C'est écrit que quand ma chère va venir, une femme pourra être en même temps enceinte et accouchée. Vous me suivez?
C'est comme avant?
Non. Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'elle peut accoucher. Et en parallèle, elle est enceinte. Double cœur.
En même temps.
En même temps.
Je pense qu'on parle d'une deuxième femme.
Non.
Au lieu que c'est ça. Au lieu que c'est des
jours. Alors.
S'il aurait voulu, hein.
Si ça peut vous rassurer, c'est une diable. Ça, c'est dans un prophète dans un texte de Jérémie. Et c'est dans une des Haftarot qu'on lit les semaines après Tisha B'Av. Vous savez, il y a les périodes de consolation dans lesquelles on nous console, on nous dit que ma chère va venir. Et là-bas, un des textes, il te dit, Arav et la dette Yardav.
Oui. La femme enceinte,
c'était en Égypte, ça. Donc, en tout cas, Im Telet Isha Becholiom.
Elle ne sera pas impure.
Un par jour.
Si, elle sera impure.
Non, si elle est encore enceinte, comment par jour?
Mais si elle a couché, elle est impure parce qu'elle a couché.
Mais comme tu dis qu'elle est encore enceinte en même temps,
ouais, elle sera impure.
Elle va amener un corban, quand même. Au moment où elle a couché, elle est impure. C'est une impureté.
Tu dis qu'elle reste enceinte.
Et les règles.
Peut-être on peut penser qu'il n'y a même plus une impureté, je ne sais pas.
Bien sûr qu'il y a une impureté. Il y a une impureté.
Quand elle est enceinte, elle
n'est pas impure. C'est ça. Comment tu peux faire
cohabiter? Le mari viendra stupide.
Est-ce que vous savez pourquoi une femme qui a ses règles devient impure?
Elle perd.
C'est un roc quelque part.
Alors si je me coupe,
c'est pas du sang de la mort, c'est pas du sang d'un enfant qui n'a pas été.
Il avait donné une explication.
Normalement, elle devrait pas être ta mère.
L'explication est très simple. D'accord. Je vous donne l'explication. Avec ça, vous allez comprendre le rapport. L'explication est que une femme, normalement, quand elle ovule, ça veut dire elle a la capacité d'avoir un enfant. Elle a en elle un œuf qui a la capacité d'avoir un enfant. C'est-à-dire cet œuf-là, s'il va ovuler, avec le sperme d'un homme, ça peut donner un enfant. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe pas comme ça? Ça veut dire quand cet œuf n'a pas été utilisé. Donc cet œuf, au bout d'un certain temps, il explose. Et c'est ça ce qui fait les règles. Donc ce qui fait les règles, ça veut dire qu'en vérité, on a eu une potentialité d'enfant qui est mort.
C'est ça cette petite mort.
Et c'est pour ça qu'on dit que pour une femme, quand elle a ses règles, c'est comme une petite mort. Et quand après ses règles, le moment du mikvé en général, ça correspond à peu près à quelques jours près normalement, au moment où la femme ovule. Quand elle ovule, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est en train de donner naissance maintenant, parce que elle va avoir des œufs qui vont donner la possibilité, éventuellement, s'il y a le mari de l'autre côté, d'avoir un enfant. Donc c'est la naissance et la mort. Donc vous voyez que c'est des notions qui existeront toujours. Il y aura bien des bébés. Donc si un bébé. Oui, moi j'aime pas du. Enfin, moi quand j'enseigne les cours de Tarat Amishpah, de pureté familiale, j'emploie pas le terme impur, je dis Nida.
Oui, mais Nida, c'est
la parce que en hébreu, le terme Touma n'est pas péjoratif comme en français.
Oui, quand tu dis impur, c'est péjoratif.
Quand on dit en français impur, ça veut dire sale.
Oui,
d'accord. Alors que c'est faux. C'est pas ça l'impureté. La pureté, c'est pas la saleté.
C'est pas ce que ça veut dire.
Nida, ça veut dire retranché. Retranché dans le sens qu'on on peut pas l'approcher. D'accord. Bon, je referme ma parenthèse.
Mais comme c'est attrait quand même au marron, on peut penser que c'est.
Ouais, mais encore.
Tu dis qu'un Cohen, il peut pas, s'il a impureté, il peut pas aller servir. Donc on pense qu'il y a quand même une notion qui n'est pas sainte, puisque quelqu'un qui est en rapport avec l'impureté peut pas servir à Dieu. Donc forcément, c'est négatif par rapport.
Mais même s'il est en
qu'est-ce qui est négatif?
L'impureté.
Bien sûr.
Alors, tu peux pas dire que c'est un côté mauvais. Forcément, c'est un côté mauvais, puisque le Cohen ne peut pas aller servir Dieu. Donc, d'un côté,
S'il est pur, il peut servir Dieu. S'il est impur, il ne peut pas. Donc,
alors, c'est ce que je veux expliquer. Genre, d'accord.
C'est mauvais.
J'ai compris. Non, non. Alors, c'est ça la notion que je voudrais expliquer. C'est qu'en vérité, quelle est la différence qu'il y a entre Mashiach, le monde de Mashiach et le monde d'aujourd'hui? Vous savez, quand on parle aux gens de, comme j'avais parlé un peu Shabbat de Fabringen, quand on parle aux gens de Mashiach, les gens, ils ont peur. En vérité, c'est très simple. Quelle est la différence entre le monde d'aujourd'hui et le monde de Mashiach? C'est que dans le monde d'aujourd'hui, il y a du vrai mal qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens mauvais. Mauvais dans l'âme, mauvais, mauvais. D'accord? Ça, quand Mashiach arrivera, il n'y aura plus. Alors, le seul mal qui existera, c'est quoi? C'est le fait de mal faire quelque chose.
Des gosses.
C'est pas un mal.
D'accord? Mais c'est pas un mal absolu.
Une erreur.
Quelque chose que tu dois refaire. Mais ça s'appelle toujours pureté, impureté, interdit, permis. C'est-à-dire qu'il y a toujours. Mais ça, oui, ça nous intéresse. Mais ce qui partira quand Mashiach arrivera, c'est la notion de mal. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, par exemple, aujourd'hui tu te balades, juste tu vas en face de la rue là-bas, tu vas au Kremlin Bicêtre, tu vois des gens comment ils te regardent, tu vois le mal dans leurs yeux. Tu vois, ils veulent te broyer. Ça, c'est du mal. Moi, j'appelle, excusez-moi, d'accord, j'appelle ça du mal. Ça, c'est du mal. D'accord, ça, il y aura plus.
Mais ils vont être encore vivants, ils vont être.
D'accord.
Ils auront plus de Dieu.
Où il faut. Ou switcher, ou bouffer. Je veux dire plus que ça. C'est écrit que quand Mashiach va venir, chacun de nous, si je me rappelle bien du chiffre, aura 320 serviteurs. Enfin, c'est le Midrashim, ça. C'est qui les serviteurs? Vous êtes d'accord, Jacky? Hein? Ça vous plaît ou pas? Les Marocains, ils aiment bien, c'est les.
Ah oui.
Ça veut dire que tu passeras ta journée à envoyer des ordres. 300, il faut les gérer, 300.
Les Goyim, ils nous aiment pas parce qu'ils ont lu hein ces trucs-là.
Nous, les Tunisiens, c'est pas ouais, ouais,
ouais, et il y en a qui disent de chez nous, ouais, ouais, on aura 320 autour de nous. Est-ce que...
C'est écrit que quand Mashiach va venir, le Midrash, il dit que quand Mashiach va venir, les Goyim nous supplieront d'être nos esclaves.
C'est grave, ça.
Moi, je vous dis comment je comprends ça. Je comprends ça dans le sens que quand Mashiach va venir, je sais pas si vont être nos esclaves, mais dans le sens que ils vont vouloir comprendre quel est le message qu'Israël en a à leur donner. Et ils vont comprendre quel est le message, la force de la Torah. Parce que c'est les mouna qu'on a. D'accord. Ce qu'il y a. Ok. On continue. Donc en tout cas, afal piken quand même, din isur tumata lo ishtane. Ve'en le arich bedavar. Alors on continue, je tourne la page, c'est ça?
Oui.
Ve'en le arich bedavar apashut umfursam. Donc il dit, en tout cas, voilà, la notion qu'on veut développer aujourd'hui, c'est qu'il veut te dire, ne t'imagine pas que quand Mashiach arrivera, on vivra dans un monde dans lequel il y aura que du bien et pas de mal. C'est évident, et toute personne qui réfléchit un petit peu au concept de la Torah comprend que pour qu'il y ait une Torah, pour qu'il y ait une vie, pour qu'il y ait un sens dans la vie, forcément il doit avoir une bonne manière de faire la chose et une mauvaise manière de faire la chose. Une manière de bien faire les choses, une manière de mieux faire les choses, c'est évident.
Mais tu parles avec une petite notion d'accord d'accidentel là, mais est-ce qu'un meurtrier il sera toujours
non,
là?
Non, pas d'accidentel, non, les meurtriers on n'aura plus, ça c'est du mal.
D'accord.
Mais il y aura la notion de mal faire quelque chose. Par exemple, tu dis une parole à quelqu'un, t'as les mauvaises paroles, du style, tac, tu l'envoies un gros mot à la figure, d'accord? Ouais, ça, c'est mal. Mais après, des notions de comment tu as parlé. Tu dis, bon, la prochaine fois, je ferai comme ça. Par exemple, quand ma chère viendra, on continuera à éduquer nos enfants. Et qui dit éduquer ses enfants? Bah, dit que c'est une courbe. Ça veut dire que des fois, on réussit un peu mieux, des fois, on réussit moins, et c'est avec nos erreurs qu'on apprend. C'est comme ça. On est d'accord? Vous savez, une fois, j'ai raconté ça à quelqu'un parlant d'Égypte. Une fois, il y a une fois un jeune qui se lance dans les affaires et qui demande à une personne âgée qui a bien réussi dans les affaires. Il lui dit, dis-moi, comment on fait pour réussir dans les affaires? C'est quoi ton secret pour réussir dans les affaires? Il lui dit, ah, pour réussir dans les affaires, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Alors, le jeune, il pose la question, il dit, oui, mais comment on fait pour prendre les bonnes décisions? Alors, il lui répond, il lui dit, ah, pour prendre les bonnes décisions, ça, c'est l'expérience. Il lui dit, oui, mais comment on a l'expérience? Il dit, l'expérience, ça c'est avec les mauvaises décisions. Ça veut dire que c'est ça la vie. Ça changera pas. On continuera à éduquer nos enfants, on continuera à faire des erreurs, c'est pas grave, ça c'est la vie. Donc il y aura toujours cette notion de Tov Vera, de l'arbre du bon et du mal. Oui, vas-y.
Donc là, ça veut dire, il veut faire démontrer qu'il faut étudier la Gemara.
Exactement. T'as tout compris. Ça veut dire, il veut te dire, avant, on a expliqué que plus on s'approche de Mashiach et plus on s'approche d'un monde idyllique dans lequel le Zohar, il n'y a que du bien, on voit que le bien, il n'y a pas de question, que le bien, le Tov. Mais là, il nous ramène vers le milieu, il dit, attends doucement, ça t'intéresse un monde comme ça? C'est nul. C'est évident que si tu réfléchis, ne serait-ce qu'un petit peu, il dit que c'est d'abord à Pashut ou Mfursam. C'est quelque chose qui est évident et qui saute aux yeux. Quand tu réfléchis un petit peu, tu comprends que ce qui dit qu'il y a un monde, forcément, il y a une bonne manière de faire les choses, une mauvaise manière de faire les choses, ou une manière bonne de faire les choses, une manière meilleure de faire les choses. C'est sûr. dans tous les aspects du monde, que ce soit envers nos amis, envers notre femme, envers nos enfants, donc c'est sûr. Donc, ואין להעריר בדבר הפשוט ומפורסם אפרו בכל השוס ומדרשים, דפריר הלכת הנמשיכה, ואליהו בא לפשוט כל הספקות, ופרשה זו עתיד אליהו לדורשה.
אמן ואמן.
Pas seulement ça. Vous savez ce qu'on dit dans la Gemara, quand on étudie la Gemara, très souvent, il y a des questions sans réponse.
Teku.
Teku. C'est quoi Teku? En passant, vous savez que Teku, ils ont récupéré ce terme-là, même dans le sport en Israël. Dans le sport en Israël, quand il y a match nul, d'accord, Teku, hein, c'est ça, on est d'accord.
Ouais,
alors c'est quoi Teku? Ça vient de la Gemara. C'est quoi Teku? Teku, c'est les rachetevot de Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Ve'ibayot. Ça veut dire Tishbi, c'est Eliyahu à Tishbi, Eliyahu à Navi. Yetaretz, il va répondre, Kushiot, Ve'ibayot, les questions et les objections de la Gemara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Eliyahu à Navi va venir, quand Mashiach va venir, parce que Eliyahu à Navi, il annonce Mashiach. Qu'est-ce que te dit la Gemara? Quand on avait des questions, les sages avaient des grandes questions qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Par exemple, des fois, t'as une contradiction entre deux grands maîtres qui ont été rapportés. On ne sait pas qui a raison. Les deux ont des arguments très puissants, solides. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réponse de la Gemara? Quand Eliyahu Navi répondra. Mais si tu m'as expliqué tout à l'heure, tu m'as dit que quand Mashiach viendra, apparemment, il n'y aura plus tout ce truc-là, la Lacha et tout, ce sera que le Zohar. Alors à quoi il sert Eliyahu Navi? Il va venir, mais c'est déjà trop tard. On lui dit désolé, on avait besoin de toi avant, maintenant c'est trop tard, on est Zohar maintenant. Donc c'est évident. C'est évident que c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Quand Mashiach va venir, c'est sûr qu'on continuera à étudier la halakha, qu'il y aura des choses permises, il y aura des choses interdites, et ça va être encore un autre plaisir, c'est évident. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose, c'est quelque chose d'évident qu'il dit ici. Ve'od enu muvan, Mashiach omer, de loïd parnesun talmide chachamim, me'ameh haaretz, ve'lo me'erevrav de achlin, di agam bizman ba'it sheni, loïm parnesun amarz me'achlin, shiochlin pasor chazé shalom, sha'are talmide chachamim. Ayou, lahem, sadot, ukramim, kamaharet. Excusez-moi, je vais faire encore deux lignes et après j'explique. Va filou hachi, ayou, oskin, belimut, isur, veeter, vetuma, vetahara, kol, azugot, shayum, vaitcheni, vemut, almidim, lalefim, revot, velimut, anistar, beester. D'accord. Donc il dit comme ça. Il dit un autre point aussi qu'avait dit le Zohar, qui est très particulier, qu'il faudrait comprendre.
Pas la lettre.
D'accord? Je suis là, ouais.
Non,
c'est pas la fin de la lettre. Non, non. C'est une lettre très longue. Ça. Il y a un autre point qui est pas compréhensible. Et ça, il faudrait développer. Et ça, c'est un rapport avec l'actualité israélienne. Dans ce mot du Zohar qu'on a vu la semaine dernière au début, il a dit que avant que Mashiach va venir, les Talmidei Chachamim, les érudits, vont recevoir à leur parnassa des Améa Aretz. Des Améa Aretz, c'est les ignorants. Comme ça, il dit.
On y est.
Et il dit en plein dedans, d'accord. Et il dit donc les Talmidei Chachamim vont recevoir leur parnassa des Améa Aretz. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar là-bas? Il dit pour éviter ça, il faut étudier le Zohar. Qu'est-ce que c'est que tu dis le Zohar? Mais l'argent il va tomber du ciel? Comment tu vas manger? Il dit, mais à l'époque, la Gemara, comment c'était? Il y avait les Talmidei Chachamim qui étaient subventionnés, il y avait les Talmidei Chachamim qui travaillaient, et ça change pas que c'est pas ni Zohar, ni pas Zohar qui a réglé les problèmes. Donc c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ici? Donc je reprends. C'est-à-dire que là, en vérité, on montre qu'on n'a rien compris. Le Zohar nous a dit deux notions qu'il faut bien comprendre. Et les deux notions, a priori, on les a complètement cassées. Première notion, il nous a dit, étudier le Zohar, ça nous aidera à nous approcher de, à tenir bon avant l'époque de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'apparemment, quand Mashiach va arriver, Zohar.
D'accord?
Deux secondes, doucement. Ça, c'est la première chose qu'on a dit. Deuxième chose qu'on a dit, ça nous permettra de pas être dépendant des ignorants. On dit, j'ai compris ni le premier, ni le deuxième. Le premier, tu m'as dit que quand Mashiach, que le fait d'étudier le Zohar, ça nous protégera à la fin des temps, parce que quand Mashiach va arriver, il y aura que ça. Il dit, mais attends, tu crois que quand Mashiach va arriver, il y aura plus la notion de bien et de mal, de halakha, de kasher, pas kasher? Bien sûr qu'il y aura toujours ça. Donc, qu'est-ce que tu me racontes dans l'histoire de Zohar? Donc, finalement, c'est quoi l'utilité du Zohar? C'est quoi le Zohar? Ça veut dire, Monsieur Bismuth a dit tout à l'heure un point qui est très juste. Il y a beaucoup de gens qui ont compris comme ça. Qui ont dit, c'est écrit, le prophète, il dit, Torah, Chadasha, mais il dit, que quand Mashiach va venir, il y aura une nouvelle Torah qui sortira de Dieu. Comme ça, c'est écrit. Une nouvelle Torah. Il y a beaucoup de gens qui ont compris. Ils ont dit, ça veut dire quoi, une nouvelle Torah? Ben, ils ont dit, certainement, c'est le Zohar. Et en passant, c'est ça la grande erreur des chrétiens.
Bien sûr.
Comme, alors nous, qui disent l'ancien et le nouveau. D'où ils ont sorti cette notion, l'ancien et le nouveau. Oui. Parce qu'ils disent, comme c'est écrit dans le prophète, Torah Chadasha Meidit, etc., que quand Mashiach arrivera, il y aura une nouvelle Torah. Donc ils voient la nouvelle Torah, c'est le Nouveau Testament.
Ah, c'est l'histoire.
C'est sûr que c'est ça.
Non,
mais c'est ça.
Et pourquoi ils ont le Testament, le
Testament? Il faut savoir.
Testament,
c'est l'héritage. Il faut savoir que tout ce qu'ils font, c'est basé sur, tout ce qu'ils font, ils sont basés sur les prophètes. Pour eux, L'autre, c'était Mashiach.
Mashiach Ben Yosef, ils ont dit, puisque
c'est 100%.
Le père, entre guillemets, il s'appelait Joseph.
C'est classique, ça, c'est du classique, ça, ce que je vous dis. Ça veut dire que pour eux...
Non, mais pour eux aussi, il va revenir encore une deuxième fois.
Oui.
Non, parce qu'il sort bien.
Bon, allez, on referme la parenthèse. Il a fait coucou, il a fait coucou, il a rebattu.
Il leur a dit, je ne sais plus qu'à l'employé. De toute manière, quand il va revenir, on va lui dire si c'est la première fois que vous venez ou c'est la deuxième. Il a dit, on lui posera la question à voir si c'est la première fois qu'il arrive ou si c'est la deuxième.
Bon, donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit d'ici, c'est que, du coup, on m'avait oublié ce qu'on a dit. Oui, que c'est écrit quand Mashiach va venir, il y aura. Faut pas qu'on perde le fil, d'accord? Quand Mashiach va venir, on a dit il y aura une nouvelle Torah. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris. C'est quoi la nouvelle Torah? C'est le Zohar. Ça veut dire qu'il y aura de nouvelles lois, etc. Sauf que le Rabbi il démontre clairement noir sur blanc que on peut pas expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est écrit, un des 13 principes de Maïmonide, c'est quoi?
Ça changera pas.
Un des 13 principes de foi. On doit avoir la Emouna, que la Torah azot, lote et mouchlefet. Que cette Torah ne sera jamais changée. Ça veut dire qu'on doit avoir la Emouna, que la Torah ne changera jamais. Parce que si tu es en train de dire que la Torah, quand ma chère va venir, amen, ça arrive aujourd'hui, elle va changer. Dans ce cas-là, tu dois accepter l'argument des libéraux qui te disent, ce qui était valable il y a 3000 ans n'est plus valable aujourd'hui.
Ou des faux prophètes, qui viennent
t'enlever. D'accord? Quand t'as un libéral qui te dit, écoute, il y a 3000 ans t'as dit de pas allumer la lumière, mais aujourd'hui c'est pas in de pas allumer la lumière. Tu te reposes plus en allumant la lumière qu'en pas l'allumant. Donc si tu dis que la Torah, va changer, il y a pas de raison qu'elle change pas maintenant. Il n'y a pas le temps de pas l'adapter maintenant. Donc, on est obligé de dire que la Torah ne changera pas. Alors, seulement, c'est quoi? Et là, on a la clé de la réponse. Ça, c'est le Rabbi qui explique. Très, très grand chidouche. Il dit, comment comprendre quand c'est écrit dans le prophète qu'il y a une nouvelle Torah qui sortira d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas qu'il y a une nouvelle Torah. Chasvei Shalom de parler comme ça. Ce sera la même Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï et il y aura pas un deuxième Matan Torah. Ce sera la même Torah. Non! Il dit comme ça. Le Rabbi, il dit que le chidouche qu'il y aura, c'est que on aura une telle perception de la Torah. C'est ça, que ça sera comme si c'est quelque chose de nouveau. Comme si c'est quelque chose qu'on n'a jamais étudié. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, c'est comme si vous êtes dans une pièce obscure. Et vous avez vécu dans cette pièce obscure pendant toute votre vie. Et un jour, on allume la lumière. C'est la même pièce. Ouais. On te montre la lumière. Mais c'est nouveau. J'ai jamais vu ça.
Mais même déjà, à chaque fois, il y a des choses qui sont
nouvelles. C'est rien par rapport à Mashiach. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle Torah? C'est pas une nouvelle Torah, non. C'est des nouveaux détails qu'on développe. C'est écrit que quand ma chère va venir, ça sera mamash, une nouvelle Torah. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, en vérité, on commence à avoir la clé de la solution. C'est quoi la clé de la solution? Mais ça, on va la développer surtout dans le prochain, cours. Je sais qu'il est un peu tôt, mais il me faut j'ai pas envie d'enclencher la suite parce que ça, c'est mamash l'autre cours. La clé de la réponse dans l'autre cours, on va expliquer finalement qu'est-ce que c'est le Zohar. Vous me suivez? Je reprends ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Le cours dernier, on a expliqué l'importance du Zohar. Comment c'est les profondeurs de la Torah. Le cours d'aujourd'hui, on a expliqué l'importance de la halakha. Comment la halakha, c'est très important pour nous et que la halakha, c'est ce qui nous permet d'avoir des règles. Et le fait d'avoir des règles, c'est ce qui donne un sens à la vie. On est d'accord? On a bien compris ça aujourd'hui? S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sens. Si on est comme un robot qui n'a pas besoin de règles, il n'y a pas de sens. Donc, ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, c'est qu'en vérité, le chidouche qu'il y aura quand tu auras Mashiach, c'est qu'on aura une combinaison de Zohar et halakha. C'est quoi Zohar et halakha? Ça veut dire que la halakha aujourd'hui, c'est un peu sec. C'est sec, ça veut dire fais ci, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Et même le maximum de compréhension que tu peux avoir, c'est quoi la compréhension? On te dit oui, tu fais comme si, parce qu'en vérité, Ravintel il a dit comme ça et comme ça dans la Gemara. Et pourquoi Ravintel il a dit comme ça et comme ça? Ah, parce qu'il y a un pasouk qui a dit ça et ça. Et pourquoi le pasouk il a dit comme ça et comme ça dans la Torah? Ah ben, je sais pas.
Et on peut même pas les contrer. D'accord. Parce qu'on n'a pas un nouveau.
Et toi, tu peux pas contrer parce que c'est une pyramide. Donc toi, tu es là, t'es tout en bas, tu dis bon ben, il a dit ça en haut, d'accord, on est bloqué. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un peu de mal. Franchement, quand je le cours de la halakha, je vois beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Ça les dérange parce que ils disent pour moi c'est pas ça la Torah. Ça les dérange cet aspect où ça pointillé les détails, des petits trucs
parisiens.
D'accord. Ça les dérange. Et je peux comprendre que ça les dérange. C'est quoi le chidouche qu'il y aura quand tu auras Mashiach? Le chidouche qu'il y aura quand tu auras Mashiach, c'est que le Zohar en hébreu, ça veut dire quoi Zohar? Zohar en hébreu, ça veut dire la lumière. Ça veut dire que on va amener une telle lumière à la Torah. Que toute la Torah sera merveilleuse à nos yeux, que ça va plus nous paraître comme des petits détails contraignants, galères. Vous savez, c'est comme, aujourd'hui, il y a des gens pour qui la halakha, ça paraît comme la bureaucratie, comme la paperasse. Quand tu vas à Paris, quand tu veux faire un document, il faut aller chercher un papier chez l'un, ça te casse les pieds. Il y a des gens qui voient comme ça la halakha. On peut comprendre, parce qu'il dit, il faut faire ci, et pas comme ci, et pas comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, pas mal, t'as raté ça, il faut recommencer ça. C'est protocole, ça leur casse les pieds. Et ben, le chidouche qu'il y aura quand tu auras ma chère, c'est qu'on va tout comprendre. Et quand tu comprends, quand c'est éclairé, c'est comme une pièce obscure dans laquelle tu es. T'es là dans une pièce obscure, tu touches, imaginez quelqu'un qui est dans une pièce obscure. Allez, dans cette pièce, il fait noir. Il avance, il se casse la figure, bac, contre le poteau. Il sait pas que c'est un poteau. Ça lui casse les pieds. Et il voit des trucs, il se fait mal partout. Il comprend pas. Un jour, on lui met la lumière. Et là, il voit, ici, il y avait un lustre. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un obstacle. C'est pas un obstacle, c'est un lustre. Ici, il y avait un poteau, mais ce poteau, il faut tenir le bâtiment, sinon il serait... Ah, c'est pour ça que ça m'a fait... Quand tu vois les choses, ce que tu croyais être un obstacle, automatiquement, tu le comprends et ça te dérange plus. Ça va être le chidouche quand Moshé va venir. Le chidouche qui aura quand Moshé va venir, c'est qu'on aura la clarté. On aura la clarté dans la Torah. Eh ben, sachez qu'aujourd'hui, quand on étudie la chassidoute, on peut avoir un avant-goût de ça. Un avant-goût de ça. Pourquoi un avant-goût? Je finis avec ça. Parce que c'est écrit comme ça. Deux raisons. Première raison, on l'a dit tout à l'heure, que quand on s'approche de Machiar, plus on s'approche de Machiar et plus les épreuves sont difficiles. Et donc, il nous faut du solide pour contrer. C'est quoi qu'est-ce qui peut contrer?
Du liquide plutôt.
D'accord? Il nous faut du béton. Qu'est-ce qui peut contrer? On a dit, c'est l'étude de la chassidoute. Aujourd'hui, pour être un bon juif, il faut étudier la profondeur de la Torah. Ne cherchez pas. Celui qui veut être un bon juif, il doit venir au cours de lundi soir. Il n'y a pas où aller. D'accord? Et une fois que vous avez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est comme ça. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Il y a une autre chose aussi qu'on dit. Vous savez qu'il y a une mitzvah la veille de Shabbat, de goûter des plats de Shabbat. Hein? Vous savez ça?
Ben mitzvah.
Hein? J'ai pas dit.
Hein? Non, on mange pas, on goûte.
On goûte, on goûte. On goûte.
Ah, j'aurais bien voulu que ma femme t'entende.
Hein? De goûter pour s'assurer.
Essaye voilà. De mettre ta main dans la casserole.
Sûr que c'est bon.
Alors attendez.
Imagine si c'est tourné quand tu te mets à table. C'est immangeable.
Il faut goûter un petit peu, c'est une mitzvah.
Tu passes Shabbat à l'hôpital.
Maintenant, on n'a pas dit que c'est le mari qui doit goûter.
Ouais, mais on aime bien servir de cobaye.
Il faut goûter un petit peu. Alors, écoutez bien.
J'ai voulu mettre la main dans la casserole.
Pour ça que
je viens. Il faudrait qu'elle est bonne, la dalle de Sinyam Salem.
Donc, il faut goûter. Il faut goûter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le rabbi? Le rabbi, il dit comme ça. Un peu tard, on finit avec ça. Le rabbi, il dit qu'en vérité, aujourd'hui, comme on s'approche de Mashiach, et c'est quoi le plat de Mashiach?
Ah,
d'accord. C'est quoi le plat? Non, pas la levette. C'est quoi le plat? C'est le Zohar. C'est le fait que toute la Torah sera claire, limpide, de manière à ce que ce sera évident qu'il faut faire des choses comme ça. Et ben aujourd'hui, comme on est la veille de Shabbat, donc Akadosh Baruch Hu, il nous donne un avant-goût. Il nous fait goûter. Comment il nous fait goûter? Par la chassidoute. La chassidoute, c'est un avant-goût de Mashiach. Donc on a d'une pierre deux coups. Il a dit que c'est chrétien, ça. Bon, d'une pierre deux coups. Alors, d'accord. Donc on a d'une pierre deux coups. D'accord.
Je
sais pas, il est comme ça.
Une manière de se préparer à recevoir ma chère.
Bon, en tout cas, d'une pierre, on a deux coups. Ça veut dire, aujourd'hui, quand on étudie la chassidoute, premièrement, première chose qu'on a gagnée, c'est quoi? Première chose qu'on a gagnée, c'est que d'abord, ça nous donne une manière de nous renforcer, de combattre le Yetzer Hara. Je peux vous dire une chose. Ne vous fiez pas aux apparences. On peut paraître très religieux et à l'intérieur être pourri. Et on peut ne pas paraître religieux et à l'intérieur être bon. D'accord? Très important, ce que j'ai envie de vous dire. Et moi, je l'ai vu de mes yeux. D'accord? J'ai vu des gens qui ont étudié la chassidoute, et j'ai vu de mes yeux comment ça les a transformés à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'ils sont devenus religieux du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est des bonnes bases, des bases saines, des bases solides. D'accord? Pas que extérieurement tu es comme ça parce que t'es né comme ça et qu'à l'intérieur c'est pourri. Aujourd'hui, plus on va s'avancer de Mashiach, surtout pour nous, nos enfants, et plus on n'a pas le choix, on sera obligé d'étudier la chassidoute, les profondeurs de la Torah. Il n'y a pas le choix. Numéro 1 et numéro 2, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a aussi l'avant-goût de ce qu'on aura quand ma chère arrivera. Donc ça, Bezrat Hashem, on va développer plus longuement la semaine prochaine. Un cours à ne pas rater la semaine prochaine, très important. En vérité, la semaine prochaine, on va expliquer qu'est-ce qui va se passer quand ma chère arrivera. Ça veut dire, aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé de l'importance du Zohar. Cette semaine, on a parlé de l'importance de la halakha. Comment? Le fait d'avoir des règles, oui, non, ça, oui, ça, non. C'est ça qui donne un sens à la vie. La semaine prochaine, ce qu'on va expliquer, c'est comment la jonction entre le Zohar et la halakha, comment ça fait un monde extraordinaire. Et avec ça, on va comprendre qu'est-ce que c'est le Zohar. Pourquoi c'est tellement important d'étudier et pourquoi. Et on va comprendre aussi pourquoi à l'époque on n'avait pas le droit d'étudier, pourquoi aujourd'hui on peut l'étudier. Ça, il nous faudra au moins un cours que sur ça.
Voilà. Donc tout ça, c'est pas du Zohar. C'est le mode.
Donc la semaine prochaine, ça tombera bien, la semaine prochaine, on sera juste après l'Akba Omer, on sera en plein dedans. Ok?
Est-ce que bientôt toutes les sources auront été dévoilées ou pas?
Bien sûr.
Est-ce qu'on déjà...
Bien sûr, puisqu'on boit de l'au-delà.
Est-ce qu'elles veulent déjà...